puisque les enfants restent avec nous ce matin, je vais vous conter une histoire. C'est une histoire pour les adultes aussi. C'est une histoire de cinq royaumes, quatre amis, trois mages, deux destinées et une pierre magique, ou on va dire une pierre miraculeuse. Une histoire de cinq royaumes, quatre amis, trois mages, deux destinées et une pierre. Vous connaissez celle-là ? Eh bien déjà, vous connaissez les mages, je pense. Peut-être pas forcément trois. Et au fait, c'est quoi un mage ? D'où sortent-ils ces mages ? On parle de rois mages, mais pas non plus des rois, forcément. Alors pour comprendre ce que c'est un mage, on va dire que c'est un mélange d'un chercheur scientifique au CNRS, un immortel à l'Académie française, un sage qui siège au Conseil constitutionnel, et puis un astrologue voyant. Voilà un mage, donc vous voyez, ce sont quand même de drôles de bonhommes. C'était des gens très puissants, très réputables, très intelligents. Et j'aimerais vous dire que cette tradition des mages, ce métier des mages, cette vocation de mage existait depuis bien longtemps, avant que certaines n'arrivent à Bethléem. Alors ce matin, j'aimerais remonter dans leur pays d'origine et remonter un peu dans le temps, bien avant l'étoile qui a conduit certaines mages. Mais j'aimerais aller retourner en Orient, dans ces pays de Perse et de Babylone. Et ce matin, je vais vous raconter une histoire, non pas des mages d'Orient qui sont venus à Jérusalem et puis à Bethléem, mais plutôt l'histoire de quelques personnes à Jérusalem qui se sont trouvées, eux, en Orient, en Babylone, et qui sont même devenus, eux, des mages. Et l'un d'entre eux, il s'appelle Daniel, il était devenu même le chef des mages à Babylone. Et lui et plusieurs amis ont été des mages. Et on pense très probablement que par leurs écrits et leur influence, ils ont pu laisser une trace qui a pu influencer des mages bien plus tard qui ont suivi une étoile en cherchant le roi des Juifs qui est né à Bethléem. Donc, mon histoire commence avec un roi, c'est le roi le plus puissant de la terre. Il a eu un rêve, il a eu un songe, plusieurs songes même. Le même songe chaque nuit, on pense. Il a eu ce songe. Alors, il a fait venir ses mages pour lui expliquer le sens de ce songe qui l'a beaucoup troublé. Alors, il fait venir les mages. Et comme vous savez, le métier des mages, c'est vraiment de sonder le secret, d'expliquer les mystères, de donner le sens à toutes sortes de choses. Alors, c'était des spécialistes, ils avaient tous les diplômes qu'il fallait pour expliquer, interpréter les songes et raconter, donner les réponses au roi. Mais ce roi, pour être sûr que ces mages vont pas lui raconter du pipeau ou du jargon de psy à l'analyse freudienne, il va quand même leur dire « Ce que vous devez faire, c'est me raconter et le songe et son explication. » Et là, les mages sont très très embêtés. Et voilà ce qu'ils disent au roi. Ils disent « Roi, ça c'est impossible. Ce que tu demandes, c'est impossible. » Et dans le verset de la Bible, ils disent cette phrase « Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Vous voyez ce qu'ils disent ? Ils disent ça, il y a des dieux là-haut, certainement eux, ils connaissent l'explication, mais eux, ils n'habitent pas avec nous. Ils ne s'intéressent pas à nos problèmes. Et je pense que beaucoup envisagent Dieu comme ça aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose là-haut, une puissance, une divinité, mais il n'habite pas parmi nous. Il ne s'intéresse pas à nos problèmes, à nos questions, à nos rêves, à nos tracas, à nos troubles, à nos peines, à nos besoins. Et il ne peut pas, il ne veut pas nous donner la réponse. Il ne peut pas, il ne veut pas nous aider avec la solution. Voilà ce que tous les mages disent au roi. Mais nous connaissons nos quatre amis, Daniel, et puis trois autres amis juifs qui ont été déportés en Babylone. Ils sont là aussi. Ils ont fait les mêmes études, les mêmes écoles de mages. Ils sont mages avec les autres. Mais eux, ils connaissent un Dieu bien différent. Ils connaissent le vrai Dieu. Ils connaissent le Dieu de la Bible. Ils connaissent le Dieu qui est proche. Le Dieu qui veut répondre à nos questions et à nos problèmes. Et le Dieu qui un jour va habiter parmi les hommes. Et vous savez, Noël, c'est ça, c'est Dieu qui nous a révélé le plus beau secret, le plus grand mystère. Dieu, à Noël, nous a donné bien plus qu'une explication à un songe. Il nous a donné l'explication de toute sa personne, de toute sa volonté, de tout son salut, de tout son être. Et cette explication, ce dévoilement du secret, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous. Et désormais, personne ne peut dire « Dieu, il n'habite pas parmi nous. Dieu ne s'intéresse pas à mes questions et mes problèmes. Dieu ne peut pas répondre à ce que je cherche. » Depuis Noël, personne ne peut dire ça. J'espère que vous connaissez ce Dieu que connaissent nos quatre amis, pour aider à dévoiler le secret pour le roi. Mais l'histoire continue. Et ça devient intéressant parce que donc Daniel et ses amis, ils prient le Dieu qui veut demeurer avec les hommes, qui veut dévoiler le secret. Ils prient ce Dieu et ils ont la réponse et ils peuvent aller dire au roi et le songe qu'il a eu et son explication. Et je sais que cette histoire, les enfants, nos enfants ont bien étudié ça dans les classes d'envol. Mais je vous rappelle ce que ce roi a vu en songe. Il a vu une statue immense, énorme. La Bible dit qu'il y avait une splendeur extraordinaire. Son aspect était terrible, une énorme statue. Et Daniel va expliquer que cette statue est faite de plusieurs parties, une tête en or, une poitrine en argent et puis différents métaux qui composent le statue. Et il explique au roi Nebuchadnezzar que cette statue représente les grands empires dans l'histoire de l'humanité. D'abord l'empire babylonien, et puis les Mèdes et les Perses, et puis l'empire grec, et puis l'empire romain, et puis l'empire romain reconstitué, mais un peu plus fragilisé. Les cinq royaumes, vous les avez là. Et beaucoup s'étonnent même, beaucoup pensent que c'est même pas Daniel qui a pu écrire ce livre, écrire ces choses, tellement les détails sont précis et tellement les choses se sont déroulées ainsi par la suite. Mais nous croyons que c'est, oui, c'est la parole de Dieu, c'est Daniel qui a eu cette révélation pour aider ce roi à comprendre comment il devait lui agir. Mais là, ça devient intéressant parce qu'il voit cette statue, mais vers la fin de son rêve, Daniel lui dit, tu as aussi vu, tu as vu une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vole là qui et puis qui frappe les pieds et qui fracasse toute la statue. Et puis le fer et l'argile et l'airain et l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Alors vous voyez bien que c'est une pierre spéciale, c'est une pierre miraculeuse. Comment une petite pierre banale pourrait pulvériser et renverser toute cette énorme statue? Les enfants, qu'est-ce qui se passe quand vous jetez une pierre contre un vitre, une fenêtre? Il faut pas le faire. Ça se casse. Mais si vous jetez un caillou contre, par exemple, je sais pas, la tour Eiffel, vous n'allez pas la pulvériser ou la renverser avec une petite pierre, cette bâtisse en fer, en métal. Mais voilà ce qui arrive à cette statue par cette pierre. Et en plus, une autre chose étonnante, c'est une fois que cette pierre renverse et pulvérise la statue, la pierre devient elle-même une très grande montagne. Alors c'est quoi tout ça? Eh bien, Daniel, grâce à la révélation, grâce au fait que Dieu s'est dévoilé à lui, il connaît l'explication. Et Daniel va dire à ce roi, le roi le plus puissant de la terre, qui lui, c'est la tête en or, l'empire babylonien, ce roi Nebuchadnezzar, Daniel lui dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, il va susciter un royaume qui ne serait jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et si je vous raconte cette histoire ce matin, c'est qu'elle fait partie de l'histoire de Noël. Vous avez reconnu cette pierre miracle, cette pierre surnaturelle qui arrive là sans le secours d'aucune main. C'est comme Jésus, il est né sans le secours d'aucune main. Lui, il est né à l'apogée du pouvoir de l'Empire romain. Qui aurait vu dans ce petit enfant, dans cette crèche, une menace, quelque chose qui pourrait renverser un tel royaume? Et même ce Jésus, il est venu petit, et même cet empire, un des empires, un des royaumes, l'empire romain, a décidé qu'il ne voulait pas de lui, donc ils l'ont crucifié. Et surtout sur cette croix, on n'aurait jamais pensé ou cru que ça, il y avait là un pouvoir pour renverser les empires. Mais ce Jésus, il est né, il est mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et nous croyons qu'il reviendra pour régner. Et nous savons, quand on regarde l'histoire, nous ne pouvons que conclure que oui, c'est son royaume d'amour et de paix et de vérité, son royaume de joie, va forcément remporter sur tous ces autres royaumes et les laisser en poussière. La preuve, c'est que les empires sont aujourd'hui des empires de poussière. Ces empires, ces royaumes que Daniel avait vus dans la statue, ce sont des empires de poussière et de ruines. Personne ne célèbre la naissance de Nebuchadnezzar aujourd'hui. Personne ne célèbre la naissance d'Alexandre le Grand. Personne ne célèbre la naissance de César Auguste. Mais le monde entier célèbre en ce moment la naissance de Jésus-Christ. Parce que finalement, on est convaincu que son royaume, sa venue, va pulvériser et réduire à néant tout le reste. Et c'est pour ça que Noël, ça compte. Noël, ça nous aide à bien faire le calcul pour notre vie et notre avenir. Noël, ça nous aide à choisir entre deux destinées. Celle où tout finit en poussière, comme la statue de Nebuchadnezzar qui représente les royaumes de ce monde, ou celle, une destinée qui subsiste éternellement, comme cette petite pierre qui est devenue une grande montagne. On comprend que Nebuchadnezzar a été troublé en voyant cette statue partir dans le vent. Il doit se dire, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est mon royaume qui finisse comme ça? Oui, sans Dieu, c'est la réalité. Et c'est la même question que nous, on peut se poser ce matin, chacun. Est-ce que ma vie va compter? Si vous vous investissez dans les royaumes de ce monde, qui aujourd'hui ont peut-être l'air impressionnants, spectaculaires, splendides, sachez que ces royaumes partent en poussière, et vous le savez, l'histoire en témoigne. Mais si vous vous appuyez, si vous comptez sur cette pierre qui est Jésus-Christ et son royaume, eh bien, vos vies prennent une permanence et une valeur et vont durer éternellement. Alors, qu'est-ce que vous avez mis sur votre petite feuille ce matin? Il fallait compter Noël en deux mots. Qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez mis « jouet plastique » Non, vous n'avez pas mis ça. C'est pas le vrai sens, la vraie histoire de Noël. Ces jouets plastiques vont finir dans la poubelle en 3 mois. Est-ce que vous avez mis « ventre tendu » Non, ça va vous faire mal de toute manière. Est-ce que vous avez mis « iPhone 10 » Non, parce que dans 2 ans, le 10, il va être nul. Est-ce que vous avez mis « Disneyland » Non, c'est pas ça, Noël, vous le savez. Est-ce que vous avez mis « Union européenne » Non, personne compte là-dessus. Qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis des choses qui reflètent plutôt les valeurs du royaume de Jésus-Christ, je pense, parce que vous savez, tout le monde sait, que ces valeurs-là, amour, joie, bonheur, reconnaissance, c'est ça qui va remporter. Et quand nous vivons pour ça, c'est ça qui nous rend sages, encore plus sages que des mages, de vivre ainsi. Moi, j'ai mis « Dieu demeure ». Dieu demeure. Il demeure avec nous, c'est ça Noël. Il est venu habiter, contrairement à tous les dieux que nous connaissons le monde, notre Dieu est venu demeurer avec nous. Et puis aussi Dieu demeure, c'est-à-dire il dure éternellement. Et nos vies qui sont en lui, appuyées sur lui, vont aussi demeurer pour l'éternité. Alors avec ces pensées, j'espère que c'était une bonne histoire pour les enfants, vous l'avez connue. Je vous souhaite tous un joyeux Noël. Merci de la participation de chacun, que vos vies aussi puissent compter pour l'éternité. Amen.